Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ActuVu, le podcast des étudiants de l'école de journalisme de Toulouse. Promis, en moins de 20 minutes, vous saurez tout de l'actu de la semaine. Attention, pour une fois, on enregistre cette émission le jeudi, mais une équipe de choc est là pour vous servir. Au programme, Agathe Paramayotte, où un droit constitutionnel est remis en cause par le gouvernement, un gouvernement qui a rétro-pédalé sur le leasing social des voitures électriques, Paul nous explique tout. Valentine fait le point sur la situation extrêmement violente à Rafah, Mathieu revient sur la décision majeure du Conseil d'État concernant CNews et enfin Pierre nous dresse le portrait du nouveau patron de M6. Restez jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui va compter dans le PAF. Arthur y revient d'ailleurs dans l'essentiel de l'info à retenir cette semaine, c'est le traditionnel affluoté.
Le journaliste Edoui Plenel a annoncé ce lundi dans l'émission Affaires Sensibles sur France Inter qu'il allait passer la main de la présidente du site Mediapart le 14 mars prochain. Une annonce retentissante pour le journaliste qui est cofondateur et qui a participé à sa démocratisation. Mais ce n'a pas été la seule annonce de départ dans le monde des médias cette semaine. Ce mardi, on a aussi appris le départ de Nicolas de Taverneau, le patron emblématique de la chaîne M6. Il sera officiellement remplacé par David Laramandi le 23 avril prochain. Mais Pierre reviendra plus en détail sur celui qui deviendra le nouveau patron d'M6.
Et cette fois, c'est un autre départ. Mbappé quitte le PSG. Ça y est, c'est fini avec le club.
C'est tombé ce jeudi en fin de journée. L'attaquant de Bondy, Kylian Mbappé, quitte enfin le PSG. Il a annoncé sa décision directement à Nasser El Khelaifi. C'est enfin la fin d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs années au sein de la capitale. Même si le Real Madrid fait partie des grands favoris quant à la destination du joueur français, plusieurs autres clubs se sont déjà positionnés sur le dossier.
La semaine a aussi son lot de résultats sportifs majeurs.
Dimanche dernier, la Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique après sa victoire en finale contre le Nigeria sur un résultat de 2-1. Un véritable moment de liesse pour tout le pays puisque celui-ci organise la compétition et gagne la compétition devant son propre public. Le week-end dernier, on a aussi eu le droit à la finale de la Coupe d'Asie des Nations 2024, une compétition remportée par le Qatar sur un score de 3-1 contre la Jordanie. Une finale marquée par le triplé de son joueur star, Akram Afif. Il y a un an, l'enquête Story Killers révélait qu'un journaliste de BFM TV, Rachid Embarki, avait été licencié pour avoir diffusé des informations servant à des intérêts étrangers. L'enquête s'est orientée vers une affaire de corruption dans laquelle apparaît le nom du député écologiste Hubert-Julien Laferrière. Pour le moment, son rôle dans cette affaire d'ingérence à l'échelle nationale reste encore plutôt flou. Des accusations que l'avocat du député n'a pas hésité à réfuter. Il a aussi annoncé se retirer ce jeudi 15 février de son groupe parlementaire. La France va interdire à 28 colons israéliens d'entrer sur son territoire en raison d'attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, a annoncé ce mardi 13 février le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. En cause, des violences perpétrées à l'encontre des populations palestiniennes et cisjordaniennes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont exprimé des préoccupations similaires et ont déjà imposé des sanctions à l'encontre de plusieurs colons.
Les élections américaines pourraient bien être bouleversées par l'influence presque démesurée de la nouvelle reine de la musique américaine.
Récemment couronnée lors de la dernière cérémonie des Grammys la semaine dernière et élue personnalité de l'année 2023, la chanteuse Taylor Swift terrifie littéralement les Trumpistes. Son impact sur la prochaine élection pourrait bien faire pencher la balance en faveur de Joe Biden. En septembre dernier, elle avait appelé ses fans à s'inscrire sur les listes électorales. Bilan, plus 1226% d'inscription, et ce, principalement chez les jeunes de 18 ans. Aujourd'hui, c'est près de 18% des électeurs américains qui se disent prêts à suivre une éventuelle consigne de vote de la part de la chanteuse.
Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ? Mais qui elle est, celle-là ?
Quelle indignité.
Dimanche 11 février, le ministre de l'Intérieur a annoncé mettre un terme au droit du sol à Mayotte. Dorénavant, un enfant né de parents étrangers ne pourra plus obtenir la nationalité française. Mais alors comment le gouvernement va s'y prendre pour modifier ce droit fondamental, Agathe ?
Alors, supprimer le droit du sol, c'est un véritable casse-tête. Il faut réviser la Constitution. Pour ça, l'exécutif doit présenter un projet de loi qui sera ensuite soumis au vote de l'Assemblée nationale ou du Sénat, puis à celui de la seconde chambre. Les deux hémicycles doivent approuver une version identique du texte, et ce, à la virgule près. Si les députés et les sénateurs trouvent un accord, alors deux options s'offrent à Emmanuel Macron.
Le chef de l'État peut soumettre le texte au référendum, mais est-ce que cette option, finalement, elle est probable ?
Alors, pas vraiment, surtout que pour une situation locale, il serait vraiment improbable qu'il décide de consulter l'ensemble des Français. La deuxième option, c'est qu'Emmanuel Macron saisisse le Congrès du Parlement, c'est-à-dire la réunion de l'ensemble des députés et des sénateurs. Ils se réunissent ensemble en séance publique à Versailles. Les deux assemblées doivent approuver ou non, dans les mêmes termes, une révision constitutionnelle. Pour être validé, le texte doit recueillir au moins 3/5 des voix, soit 555 voix si les 925 parlementaires votent.
Et alors, est-ce que cette révision pourrait vraiment passer ?
Alors, cette révision semble possible. La droite et l'extrême droite y sont favorables, la gauche, elle, s'y oppose. Selon LFI et le PS, le droit du sol n'est pas à l'origine de la crise migratoire de Mayotte. Il dénonce également la remise en cause d'un des fondements de la République. De son côté, la droite souhaite modifier plus largement la Constitution. Éric Ciotti a même réclamé la suppression du droit du sol partout sur le territoire français.
Le projet de loi d'urgence pour Mayotte sera présenté en Conseil des ministres le 22 mai prochain. C'est un autre président qui est de retour devant la justice, Nicolas Sarkozy.
Oui, l'ancien président de la République a été condamné par la Cour d'appel de Paris à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, dans le procès Big Malion. Le dossier concerne les dépenses excessives pendant la campagne présidentielle de 2012. L'avocat de l'ex-président a annoncé que Nicolas Sarkozy allait se pourvoir en cassation.
Une étude sur le harcèlement scolaire révèle des chiffres alarmants.
Plus d'un élève par classe serait victime de harcèlement à l'école. C'est ce que révèle une enquête livrée par l'Éducation nationale. 5% des élèves du CE2 au CM2, 6% des collégiens et 4% des lycéens en sont victimes.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream. Be you, be proud of you.
Malgré les mises en garde internationales, Israël persiste dans son projet de lancer une opération militaire à Rafah où se terrent plus d'un million de Palestiniens dans des conditions effroyables. Valentine, tu nous expliques.
Alors, la tension est de nouveau montée d'un cran dans la nuit du dimanche à lundi à Rafah, au sud de la bande de Gaza. Coincée entre la mer et la frontière avec l'Égypte, cette ville représente le dernier refuge de milliers de civils ayant fui la guerre. Elle est aussi devenue la cible du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a ordonné à son armée d'y préparer une offensive. Le Hamas, quant à lui, a prévenu dimanche qu'une telle opération torpillerait tout accord possible pour la libération des otages qu'il détient encore à Gaza. Les négociations en vue d'une trêve et de nouvelles libérations d'otages se poursuivent au Caire, sous médiation du Qatar et de l'Égypte.
Et Rafah n'est pas la seule à subir des menaces de la part d'Israël.
Un mercredi sanglant, c'est ce que titre le journal L'Orient le Jour. Hier, la journée s'est déroulée sous le signe des bombardements et des raids aériens entre le sud Liban et Israël. Côté civil, le bilan s'élève à 8 morts. Pas le choix pour les Libanais, cette situation fait partie du quotidien. Walid Haradji, dramaturge en tournée avec sa troupe dans le sud du pays, nous livre son témoignage.
Tous les gens qui habitent au sud se sont déplacés. Les enfants ne vont pas à l'école parce que forcément c'est trop dangereux. Ils ont déserté la région, etc. On a eu une longue guerre civile. On a ensuite eu la guerre de 2006. Donc c'est pas une habitude qui est super sympa à avoir, mais on a l'habitude de ce genre de choses au Liban. Pour être très honnête, on n'a aucun ressenti de la guerre. Et c'est juste des bombardements sur des points très précis. Il y a très très peu de victimes civiles. Et après, les autres victimes, ce sont des combattants du Hezbollah. Ici, la vie continue. Les gens sortent, les gens vont danser, les gens vont au théâtre.
Une situation extrêmement sérieuse, mais qui malgré tout ne semble pas inquiéter les populations.
Des populations, on l'a dit, qui subissent différents raids aériens de Tsahal, un contexte entre les deux pays qui ne date pas d'aujourd'hui.
En réalité, cela fait plusieurs années que les relations entre Israël et le Liban sont super tendues. La cause derrière cette escalade des tensions, c'est clairement la présence du Hezbollah au sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir tué un commandant du mouvement islamiste libanais, le Hezbollah, lors d'une frappe au Liban. Même si le conflit entre le Liban et Israël est continu depuis quelques mois, une expansion du conflit n'est pas vraiment envisageable par les habitants. Ces derniers ne sont pas inquiets. D'après eux, Israël n'aurait rien à gagner à bombarder l'entièreté du Liban, bien au contraire.
On parle encore de Trump qui a fait des siennes cette semaine.
Comme souvent, Trump a nourri les polémiques. En campagne pour sa réélection, l'ex-président américain s'en prend une nouvelle fois à l'OTAN. Le candidat républicain a évoqué la possibilité, en cas d'attaque de la Russie, de ne plus défendre les pays de l'Alliance dont la contribution financière lui semble insuffisante. Bluff électoral ou menace sérieuse, les déclarations de Donald Trump ont fait réagir. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dénonce les mots de Trump qui auraient sapé leur sécurité.
Et pour changer, la Russie aussi est au cœur des polémiques.
La première ministre estonienne poursuivie par la Russie. En Estonie, des monuments soviétiques ont été déboulonnés. Il n'en a pas fallu davantage à la Russie pour lancer un avis de recherche contre la première ministre Kaja Kallas. Cette dernière n'est pas la seule personne poursuivie par Vladimir Poutine, mais c'est la seule chef de gouvernement. C'est aussi l'une des plus farouches défenseurs de l'Ukraine et de l'OTAN.
Et le ministre radical est en colère.
Combien ?
This is Elon Musk.
La première édition du leasing social n'aura duré que 6 semaines. Le gouvernement a décidé de clôturer cette offre. Le leasing, c'est permettre aux Français qui n'ont pas les moyens de rouler en voiture électrique pour un loyer mensuel compris entre 100 et 150 euros. Une décision aux allures d'échec pour le gouvernement, Paul.
La voiture électrique pour tous et pas trop chère, c'est fini. Le leasing social, promesse du candidat Macron en 2021, on peut la qualifier de ratée. Plus d'un an de travail de conseiller et de haut fonctionnaire pour finalement quoi ? Un mois et demi avant que tout s'arrête ? Un coup d'arrêt brutal alors que 50 000 ménages ont déjà commandé cette automobile subventionnée par l'État.
Et du coup, le gouvernement tente tant bien que mal de justifier cette suppression.
La réussite de la mesure est la principale raison évoquée par le gouvernement. Il s'attendait à 20 000 véhicules, il y a eu 50 000 demandes en quelques semaines. Une affluence qui s'explique par des conditions très favorables mais qui a un coût. L'exécutif subventionne la voiture à hauteur de 13 000 euros. Le budget prévu n'aurait pas été suffisant. Il est pourtant de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble des aides à l'automobile. Alors, le risque de dérive a convaincu le gouvernement d'interrompre brutalement le dispositif. Laisser le temps aux constructeurs de se préparer à l'afflux de demandes est également une explication citée par les autorités, une justification qui pose question. Depuis la sortie de la crise Covid, les constructeurs en manque de semi-conducteurs donnent des délais de plusieurs mois pour l'obtention d'un véhicule. Les clients peuvent donc attendre quelques mois de plus.
Bon, on a compris, c'est compliqué, mais la mesure pourrait revenir au calendrier de l'exécutif prochainement.
Oui, le gouvernement assure que le dispositif sera reconduit en 2025, en incluant peut-être davantage les modèles Made in France face au Made in Europe. De quoi favoriser certains constructeurs comme Renault, qui produit plusieurs de ses modèles dans l'Hexagone, au contraire de Peugeot ou de Citroën.
Et rappelons que l'Allemagne avait supprimé ses aides à l'achat de voitures électriques il y a 2 mois, donc maintenant la France en assiste sans doute à la fin du subventionnement massif en Europe dans ce domaine. Paul, tu restes dans ta voiture. Cette fois, plus question d'oublier ses papiers de véhicule ou de fouiller partout en cas de contrôle, le permis de conduire dématérialisé est généralisé partout en France.
Jérémy, cette application est pour toi, tu perds tout le temps tes cartes.
Oui, ça c'est vrai, j'avoue.
Tu peux donc faire la demande pour obtenir sur ton smartphone, que tu as tout le temps avec toi, ouais, ton permis de conduire dématérialisé à condition d'avoir une carte d'identité de nouvelle génération. Est-ce que tu l'as ?
Ouais, c'est les petites là, c'est ça.
Exactement. Alors tu fais partie des 17 millions de Français à l'avoir. Le permis sera donc disponible sur l'application France Identité, qui a d'ailleurs crashé ce mercredi, surchargé par près de 3 millions de téléchargements. Mais n'inquiète pas tes grands-parents. Ce permis dématérialisé ne semble pas voué à remplacer le permis de conduire physique.
On change totalement de sujet, mais tout aussi important, de plus en plus de Français recourent à la vasectomie et c'est un sacré changement dans le recours à la contraception.
Une étude de l'équipe Epiphar, rendue publique en début de semaine, dévoile que près de 30 288 opérations de vasectomie ont été réalisées par des chirurgiens urologues en 2022, un chiffre multiplié par 15 depuis 2010. Rappelons-le, la vasectomie consiste à ligaturer les canaux qui transportent les spermatozoïdes depuis les testicules. Ce sont majoritairement les hommes des régions Pays de la Loire et Bretagne qui demandent cette contraception définitive, des chiffres supérieurs à la stérilisation féminine selon l'enquête, alors que la France a longtemps fait office de mauvais élève au niveau mondial de la stérilisation masculine.
Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
CNews devra-t-il se réinventer ? Le Conseil d'État a sommé l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias en France, de mieux contrôler la chaîne de télévision, une décision qui apporte tout de même son lot de questions, Mathieu.
Tout est parti d'une requête de Reporters sans frontières. L'ONG avait saisi le Conseil d'État en avril 2022 pour contester le refus de l'ARCOM d'agir contre les manquements de CNews à ses obligations en tant que médias d'information. RSF a donc obtenu gain de cause avec une décision qu'elle qualifie d'historique, mais qui amène aussi son lot de problèmes. Dans le détail, le Conseil d'État donne 6 mois à l'ARCOM, bon c'est très court, hein, pour réexaminer le respect par CNews de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Actuellement, on contrôle les temps de parole des personnalités politiques, mais le Conseil d'État demande d'aller plus loin. Les prises de parole des chroniqueurs, animateurs et invités seront également contrôlées.
Mais ça semble pas un peu compliqué de calculer tout ça ?
Il faudrait vérifier la couleur politique de chaque intervenant, prendre en compte leur temps de parole en plus de ceux des politiques, définir avec quel groupe l'associer. L'ARCOM va devoir tout simplement revoir sa manière d'évaluer le respect de la pluralité sur les chaînes de télévision. Car si CNews sera le premier à tester ce futur dispositif de contrôle, à terme, il faudra l'appliquer à toutes les autres chaînes.
Aux États-Unis, Victor Wembanyama affole les statistiques en NBA.
Dans la nuit de lundi à mardi, le joueur des Spurs a cumulé 27 points, 14 rebonds et surtout 10 contres contre les Raptors. En basket, on appelle ça un triple-double. Généralement, c'est avec points, rebonds et passes, mais avec les contres, la performance est rare, surtout pour un rookie. Le dernier débutant en NBA à réussir par exploit, la légende David Robinson en 1990. Un Wembanyama historique donc, mais surtout une excellente nouvelle pour l'équipe de France qui comptera sur lui pour amener une médaille olympique cet été à domicile.
Le monde du doublage français pleure l'un des siens.
Il était une voix qui a marqué toute une génération, notamment avec cette réplique.
Il y a encore une chose que je voudrais dire à ma femme à la maison. Oh Adrien, j'ai gagné!
L'inoubliable Rocky Balboa, Rambo, Judge Dredd ou encore Barney Ross dans les Expendables, le comédien Alain Dorval était la voix française de l'acteur américain Sylvester Stallone. Il est aussi connu pour avoir prêté sa voix à Nick Nolte ou Danny Aiello. Il s'est éteint ce mardi à l'âge de 77 ans des suites d'un long combat contre le cancer.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Et maintenant, comme je vous l'avais promis en début d'émission, cette semaine, Pierre, tu nous dresses le portrait du nouveau patron du groupe M6, David Laramendi.
Qui ça ?
David Laramendi, le nouveau patron de
M6. Oui, pardon. Bon, je vous rassure, hein, j'ai aussi été contraint de faire 4 à 5 recherches sur le monsieur avant de savoir qui était l'homme qui allait succéder à Nicolas de Taverneau. Parce qu'après 37 ans de règne sans partage à la tête de la chaîne généraliste privée, on attendait une pointure pour prendre sa suite. Non, c'est un total inconnu du grand public. En revanche, sa nomination ne surprend pas en interne puisqu'il était directeur général de la publicité au sein de ce même groupe M6.
Donc un choix qui a été fait dans le groupe, mais est-ce qu'il y a quand même des interrogations sur ses capacités ?
Alors, il interroge car il n'a aucune certitude sur ce type de poste. Il n'a jamais dirigé de médias au cours de sa carrière, sauf que, détail important, il a commencé comme banquier d'affaires chez Goldman Sachs à Londres, une banque britannique qui lui a permis de conseiller plusieurs médias dans leurs placements financiers et la fructification de leurs capitaux. Vous l'aurez compris, ça plus la pub, on a affaire plutôt à un financier qu'à un journaliste réformateur.
Et du coup, à quel type de personnalité on doit s'attendre ?
Plutôt réservé, du moins dans les médias, ce sont ses proches qui en parlent ainsi. Il approche les 50 ans, il est basque, adore le golf. Enfin, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est surtout un grand travailleur qui a obtenu d'excellents résultats depuis son arrivée à M6 il y a 16 ans. Et il dispose d'une arme incroyable, l'art de la négociation, atout indispensable alors que le groupe M6 voit ses audiences baisser à tout niveau. La chaîne M6 pour la télé, RTL pour la radio. Il devra surtout gérer le plan streaming M6 Play et le gros dossier de la vente du groupe après l'échec de la fusion avec TF1. Pas facile de succéder à Taverneau, encore moins facile de prendre en charge tous les gros chantiers qui attendent M6.
C'est la fin de cet épisode d'ActuVu, merci à toute l'équipe et notamment Valentine à la technique. La semaine prochaine, on prend un peu de vacances mais on revient dans 2 semaines. D'ici là, suivez-nous sur Insta et TikTok, on poste du contenu inédit tous les jours. Merci d'être à notre écoute, bonne semaine à tous.